Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Vous le savez, le sommet des dirigeants du G7 s'est conclu il y a quelques jours à Carbis Bay, au Royaume-Uni. Et parmi les pays du G7, il y a bien sûr le Canada. Et à la tête du Canada, il y a le premier ministre Justin Trudeau, qui n'a pas beaucoup impressionné mon prochain invité, Jean-François Lisée, ex-chef du Parti québécois, commentateur, auteur, journaliste, chroniqueur. Jean-François, bonjour.
Bonjour Sophie.
D'après ce que je comprends de la petite note que tu m'as envoyée soit ce matin ou tard hier soir, tu trouves que comparé, disons, à ses prédécesseurs, Justin Trudeau n'est pas un poids lourd au sein du G7.
C'est vrai. Maintenant, il faut dire que le Canada est une puissance moyenne, donc normalement, n'a pas vocation à dominer ou diriger ou influencer de façon majeure le G7. C'est vrai aussi de l'Italie, qui est aussi une puissance moyenne et qui est membre du G7. Et ensuite, ça dépend des personnalités. On a eu des cas où des premiers ministres du Canada ont réussi à avoir une influence plus grande que, disons, la force relative du Canada dans le monde. C'était le cas, par exemple, de Brian Mulroney.
Ah, ben, je suis contente que t'en parles. Oui, c'est ça, parce que moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Donc, je te laisse aller, mais j'approuve à quatre mains, là, ton évaluation de Brian Mulroney.
Sur la scène internationale, bon, il y avait une situation particulière parce que François Mitterrand, le socialiste, était président de la France. Ronald Reagan, le conservateur, était président des États-Unis. Et Mulroney avait de bonnes relations avec les deux et souvent il pouvait servir de médiateur.
Absolument.
Donc ça, c'était intéressant. Ouais. Ouais. Et aussi, il était assez en pointe sur certains dossiers, comme celui de l'apartheid en Afrique du Sud. Mulroney avait décidé de défendre l'idée des sanctions économiques contre Margaret Thatcher, qui était première ministre britannique, qui était contre les sanctions. Donc, Mulroney était un joueur dans le G7. Une autre personne qui est pas mon préféré, disons, dans l'univers politique canadien, qui est Jean Chrétien. Jean Chrétien réussissait à avoir une pertinence parce que il avançait des propositions. Mm-hmm. Alors, une proposition importante qui était celle du traité anti-mine personnelle.
Oui.
Qui a été signé par un grand nombre de pays, qui est maintenant un traité qui est en vigueur. Aussi, la création de la Cour pénale internationale est une initiative canadienne.
Ah ben alors, ça, tu vois, moi ça, je ne me rappelais pas de ça.
Alors donc, de sommet en sommet, il y avait des initiatives. Le Canada était vu comme un pays qui était porteur de propositions, et Jean Chrétien était un de ceux qui portait ces propositions. Il y avait une grande initiative aussi sur la qualité de la gouvernance en Afrique, qui faisait partie de ces projets. Donc, les membres du G7 ne considéraient pas que le Canada était une force importante, mais le Canada était une force de propositions intéressantes, portait des projets et faisait des discussions. Justin Trudeau, il propose rien. Il est juste présent, il est juste content d'être invité.
Il est content d'être content. Mais non, mais c'est parce que non, mais c'est intéressant quand il va au G7. Je trouve que t'es trop dur avec notre premier ministre. Parce qu'à chaque fois qu'il va à quelque chose à l'international, on se pose tous la question, quel genre de chaussettes il va porter, le premier ministre du Canada? Je trouve que t'es trop dur avec notre petit Justin. Voyons, Jean-François.
Ouais, tes attentes sont très basses. Elles sont très basses, même physiquement.
Bas. Les bas. Les bas pour les attentes sont basses pour ces bas. Oui. Vas-y, continue, excuse-moi. Mais on peut pas s'empêcher de faire un peu d'humour, parce que, je veux dire, au-delà du fait qu'on peut aimer ou ne pas aimer le personnage, on peut trouver qu'il est trop Monsieur Selfie et tout ça, il reste que, quand t'es à la tête, justement, d'un pays du G7, tu dois avoir un certain décorum, un certain, je veux dire, et je peux jamais m'empêcher de le trouver un peu ridicule. Par contre, Je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure à propos de Brian Mulroney, qui est tout à fait vrai. Donc, ses amitiés très sincères. Hein, il était très proche de Ronald Reagan, ses liens avec François Mitterrand. Mais on peut dire aussi de Justin Trudeau, par exemple, il y avait comme une espèce de bromance avec, avec Emmanuel Macron. Donc ça, ça peut quand même avoir un poids diplomatique.
C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un que les autres dirigeants du G7 ne veulent pas avoir à table. C'est quelqu'un de sympathique, on peut discuter avec lui. C'est pas un troublion, il n'empêche pas le consensus. C'est pas un cas problème, tu sais, comme Donald Trump pouvait l'être ou parfois quand il y a un premier ministre d'Italie qui décide de jouer à contre-courant. Alors, dans ce cas-là, il est apprécié, mais il est apprécié comme le bon invité qui n'est pas problématique, mais c'est pas quelqu'un qui... Et puis, effectivement, il y avait un très bon rapport avec Obama, par exemple. Obama avait mal jugé Justin Trudeau, pensant qu'il... Lorsqu'il est arrivé, il y a des gens qui pensaient qu'il représentait la nouvelle génération de leaders internationaux, lui et Macron, qui sont arrivés en même temps. Et alors que Macron est très actif sur la scène internationale, par exemple, il essaie constamment de rapprocher l'Iran et les États-Unis, il est présent sur plusieurs dossiers. Trudeau, non. Trudeau est présent sur aucun dossier. Je veux dire, il n'est pas une force.
Voilà. C'est un suiveux, c'est pas un leader. Voilà.
C'est ça. Et c'est dommage parce que si le Canada n'a pas une politique distinctive, sa présence est fragilisée parce que la présence du Canada au G7 est presque c'est très circonstanciel. Lorsque le G6 s'est d'abord réuni, c'était Giscard d'Estaing qui l'avait fait. Il n'était pas question d'avoir le Canada parce que pour lui, c'était comme une province des États-Unis, puis il voyait pas pourquoi il donnerait deux sièges aux États-Unis. C'était réducteur de la part de Giscard d'Estaing, mais c'est comme ça qu'il le voyait. Et c'est ensuite, lorsque les États-Unis ont eu ont reçu le G6, qu'ils ont décidé qu'ils voulaient avoir leur province avec eux. Et depuis ce temps-là, le Canada est là. Mais il y a d'autres pays qui disent, écoutez, là, l'importance à la fois économique, démographique et géopolitique du Canada ne justifie pas sa présence au G7. Alors que l'économie de la Corée du Sud, par exemple, est plus importante. Évidemment, les pays du Sud comme le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud se demandent pourquoi ils sont pas au G7. Et parce que le G7 n'est pas seulement des pays du Nord. Le Japon y est.
Tout à fait.
Il y a un moment où...
Donc la question se pose.
C'est quoi le critère? Montrez-nous la liste les critères d'adhésion parce qu'on n'est pas certain que ça devrait rester comme ça. Donc, le Canada, pour justifier sa présence, doit devrait constamment montrer sa pertinence. Et là, sous Justin Trudeau, ce n'est pas le cas.
Ouais. En même temps, je veux pas perdre les gens non plus avec les G6 puis les G7, mais il y a le groupe des 20 aussi, puis on se rappellera, bon, évidemment, le Canada en fait partie, puis là, c'est beaucoup plus large, hein, il y a beaucoup plus de pays, parce que le critère, c'est les pays les plus riches, mais rappelle-toi justement, parce que tu disais tout à l'heure qu'il est pas quand même une honte pour nous quand il participe à ces trucs-là, mais rappelle-toi quand même, c'était au G20 où on l'a vu, les images avaient beaucoup circulé. On l'avait vu arriver à une rencontre et il se présentait tout sourire devant Bolsonaro, qui l'ignorait complètement, qui lui tendait même pas la main et qui s'assoyait en lui tournant le dos. Et là, moi, je trouvais ça humiliant de voir notre premier ministre snobber comme ça. Donc, je voulais juste raconter.
Mais pas mal autrui, hein? Bolsonaro, t'as mal autrui.
Oui, d'accord, mais enfin, quand même.
Ça avait été Merkel, ça aurait été pire, tu vois.
Oui, tout à fait.
Quelqu'un qu'on respecte. Ouais.
Voilà, tout à fait. Il y a quand même des décisions qui ont été prises, qui vont avoir un impact sur nous ici au pays, comme cette décision de donner, je pense, 100 millions de doses de vaccins pour aider les pays qui sont plus problématiques, où on n'a pas accès aux vaccins comme nous, on en a. Et je pense qu'il y a des gens ici au pays qui se sont dit, voyons, pourquoi on aide les autres pays alors que nous, on n'a pas, tout le monde n'est même pas encore vacciné. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, quand tu fais partie d'un groupe comme comme le G7 et de toute façon juste comme être humain, tu peux pas dire bon, on va juste s'occuper de ce qui se passe chez nous, parce que vu que c'est une pandémie mondiale, ben si tu n'aides pas les pays qui en arrachent, ben tu vas te retrouver avec un problème qui un jour va venir te rattraper. Donc toi, ça te paraît justifié cette décision-là de donner autant de doses de vaccins aux pays qui en arrachent?
Absolument, parce que c'est pas seulement de l'altruisme. Déjà, ce serait bien si c'était de l'altruisme, mais comme c'est une pandémie globale, si se développent de nouveaux variants qui sont résistants au vaccin, ce qui arrivera un jour, ben ça va être encore une fois être très dommageable pour l'économie mondiale et notre économie à nous. Alors donc, on a un intérêt direct à ce que ça se reproduise pas. Plus il restera des foyers d'infection actifs, plus le risque de variants nouveaux est grand. Donc, il faut réduire ces foyers-là. Et là-dessus, je vais donner une bonne note à Justin, parce que lorsqu'on compare à, disons, l'importance de la population, donner 100 millions de doses pour le Canada, c'est une fois et demie ce que ça prend pour vacciner complètement la population canadienne. Alors, si on utilise ce critère-là pour les autres donateurs, en fait, les Américains sont 330 millions. Une fois et demi, ça devrait être 1 milliard. Ils en donnent seulement 500 millions. Et la France, qui sont 66 millions de personnes, ne donne que 50 millions de doses.
Ouch!
Fait qu'en ce moment,
c'est intéressant, ça.
En proportion de notre population, on est les plus généreux. Et là-dessus, donc, petite étoile à Justin Trudeau.
Ouais. Non, mais c'est important que tu le mentionnes, parce qu'on peut pas juste on peut pas juste casser du sucre sur le dos de Justin Trudeau. Mais donc, en effet, c'est très très généreux et surtout très avisé, parce que voilà, ça peut avoir des conséquences. Ça peut avoir un effet boomerang là. Si on le fait pas, ben ça va venir nous rattraper à un moment donné. Donc, pour parler plus largement, qu'est-ce que ça prendrait? Est-ce que tu penses que Justin Trudeau, il a ça en lui, ou il y a strictement rien à faire et il n'est pas un leader qui prend des initiatives sur la scène internationale? Il a ça en lui, où il y a moyen de... Parce qu'on est quand même dans une année d'élection. Il me semble que quand tu es premier ministre du Canada, puis tu participes à un événement aussi important, aussi crucial que le G7, c'est peut-être l'occasion justement de briller, puis de dire à tes concitoyens, et regardez à quel point je représente bien le Canada à l'international. Ça n'a pas été vraiment impressionnant, là.
Alors, je pense qu'il l'a pas en lui, alors que Brian Mulroney l'avait en lui. Mais ce que, par exemple, Jean Chrétien, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est qu'il avait un ministre des Relations internationales qui était Lloyd Axworthy, qui lui était très activiste.
Oui.
Alors c'est de lui que viennent les initiatives qui sont ensuite portées par le premier ministre. Alors malheureusement pour Justin Trudeau, ses ministres des Relations extérieures ont été assez faibles. Et donc, sauf Chrystia Freeland, qui était très occupé à contenir Donald Trump.
Absolument.
Mais donc, il n'y a pas eu de nouvelles initiatives. Là, en ce moment, c'est Marc Garneau qui est vraiment monsieur somnolence. Alors, donc, on ne doit pas s'attendre à d'autres initiatives de lui.
Oui, t'es donc bien méchant ce matin, Jean-François. Parce qu'habituellement, on t'a le mercredi. Et là, notre ami Facal s'en allait chez le dentiste, pour tout vous dire. Et donc, j'ai demandé à Jean-François d'être là aujourd'hui, le mardi. Mais je ne sais pas ce que t'as mis dans ton café ce matin, Jean-François. T'es... Marc Garneau passe au bazooka...
C'est le sujet.
Ah ouais.
Mais alors que Chrystia Freeland, par exemple, si on la laissait plus longtemps, donc elle aurait des initiatives, je suis certain, plus fortes. Oui. Alors c'est ça, c'est la combinaison qui manque chez Justin Trudeau. On verra s'il est réélu, ce qui est probable. Est-ce qu'il va trouver par exemple, s'il mettait Mark Carney, qui est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, s'il devenait ministre des Relations extérieures, aurait une politique internationale, du moins financière, beaucoup plus active, peut-être contre les paradis fiscaux ou la fiscalité internationale, ça serait intéressant. Mais pour l'instant, on ne voit rien venir, ma chère Sophie.
Soran, que vois-tu? C'est quoi la phrase? Soran, ne vois-tu rien venir? Ben là, c'est Sœur Sophie, ne vois-tu rien venir? Non, pas grand-chose. Revenons quand même sur Brian Mulroney. Je fais partie du fan club numéro un de Brian Mulroney. Et non, mais tu sais, pour l'anecdote, là. On a une amie en commun, Brian Mulroney et moi, et à un moment donné, donc, j'ai eu l'immense privilège d'être invité à un dîner chez des amis, et Brian Mulroney était là avec Mila. Parce que moi, je suis membre du fan club de Brian Mulroney, mais je suis la présidente du fan club de Mila Mulroney. Et non, mais je raconte tout ça parce que Brian Mulroney est un excellent raconteur et il nous racontait, on était tous subjugués autour de la table. Écoute, je suis incapable d'imiter Brian Mulroney, mais là, j'ai pris le téléphone, puis là, j'ai appelé Ronald, et là, on a discuté. Et puis là, à un moment donné, j'ai raccroché. Puis là, j'ai appelé Margaret et on s'est... Puis là, tu le regardes, puis c'est l'histoire de l'Occident qui se déroule devant tes yeux. Et la raison pour laquelle aussi je raconte ça, c'est le rôle extrêmement important que Mila Mulroney a joué. Premièrement, parce qu'elle est polyglotte. Deuxièmement, parce qu'elle est extrêmement intelligente. Et troisièmement, parce qu'elle est très belle. Et c'est indéniable... parce que Brian Mulroney nous racontait ça, que parfois, des leaders du monde libre venaient le voir en disant, ben, on aimerait ça organiser une rencontre avec vous, Monsieur Mulroney, mais est-ce que Mila va être là?
Seulement si.
Oui, quand même pas. Mais disons qu'elle a été un atout absolument extraordinaire au moment où Brian Mulroney était notre premier ministre. Et la raison aussi pour laquelle je raconte tout ça, c'est que au début, je pense que Brian Mulroney a joué le rôle de conseiller auprès de Justin Trudeau, entre autres pour lui donner des conseils sur comment faire face à cette espèce de fou furieux qu'était Donald Trump. Mais je ne sais pas si aujourd'hui M. Mulroney est encore le conseiller de Justin Trudeau. En quel cas, peut-être qu'il aurait été bien avisé de lui donner quelques conseils sur sa participation au G7, ce qui manifestement n'a pas été le cas. Voilà. Donc, j'ai encore une fois beaucoup plus parlé que toi pendant ta chronique. J'espère que tu m'en tiendras pas rigueur.
Je dirais pas. Je pense que j'ai parlé 60% du temps, je dirais ça.
Ah bon, ben c'est bon.
C'est une bonne moyenne.
On a quasiment eu la parité. Jean-François, merci beaucoup. Donc, on va se retrouver vendredi comme d'habitude. Donc, merci d'avoir à pied levé remplacé ton collègue, Monsieur Facal. Et on peut dire que pendant que lui était chez le dentiste, Joseph, toi, tu nous as montré que tu avais peut-être une dent contre Marc Garneau. Merci beaucoup, Jean-François. On se retrouve vendredi.
Salut.
À la prochaine.